Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Monique Robin au lendemain de sa présentation de son film « La fabrique des pandémies » à Étré, qui a été présenté dans le cadre d'une action partenaire avec le cinéma rural et l'association de conférences ABCDE. Bonjour Marie-Monique.
Bonjour.
Alors Marie-Monique, on ne vous présente plus, vous êtes une journaliste d'investigation très active et très militante. On vous lit. On vous voit, aujourd'hui ce livre, La fabrique des pandémies, et ce film. Et j'ai une première question à vous poser par rapport à ce film que vous avez présenté. Pourquoi ce titre, La fabrique des pandémies ?
Bah, en fait, moi je suis tombée sur ce sujet un peu par hasard, si j'ose dire, hein, parce que ça fait quand même très longtemps que je travaille sur ces questions, l'environnement et la santé. Mais c'était un article du New York Times de fin janvier 2020 dont le titre était « We made the pandemic », c'est nous qui avons fait cette pandémie. Et donc, voilà, il y avait des scientifiques qui témoignaient dans cet article. J'ai commencé à prendre contact avec certains d'entre eux et du coup, j'en ai interviewé une centaine. Et ils disent tous que nous, les humains, créons les conditions pour que de nouvelles maladies infectieuses émergent. Donc les nouvelles maladies qui émergent depuis une cinquantaine d'années sont une fabrication des humains. C'est-à-dire que ce sont des virus qui étaient là depuis la nuit des temps, hébergés par des chauves-souris ou des rongeurs, mais qui n'embêtaient personne. Et c'est nous, en perturbant les équilibres, notamment des écosystèmes, qui contribuons à l'émergence de ces virus. Voilà.
Donc, il y a un virus, en fait, qui a favorisé, qui a peut-être été à l'inspiration de votre film.
Ah, vous voulez parler du coronavirus
Oui, enfin, qui a créé une période d'inspiration pour vous, puisque vous étiez confiné.
Ah oui, ben voilà. Donc moi, du coup, quand j'ai lu cet article, c'était juste avant le premier confinement, eh bien, j'ai plongé dans une enquête de 2 ans, parce qu'en fait, je n'avais pas réalisé à quel point il y a déjà une épidémie de pandémie, en fait, qui existe bien avant la Covid-19. C'est ce que montre, par exemple, Serge Morand, un chercheur du CNRS, depuis les années, allez, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, vous prenez Ebola, par exemple, qui est un virus qui a émergé en Afrique, qui est extrêmement dangereux, qui tue 90% des gens qui sont contaminés, donc c'est bien plus dangereux que la Covid-19. Mais le sida est une maladie infectieuse émergente d'origine zoonotique, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui ont transmis ce virus aux humains. Mais vous avez aussi le MERS, le Zika, le chikungunya. Enfin, la liste est très très longue. Et quand on voit ça, effectivement, on comprend que le Covid-19, c'est un petit virus parmi tous ceux qui ont déjà émergé récemment. Et puis tous ceux qui vont suivre. Parce que c'est ce qu'on comprend aussi. C'est que tant qu'on continuera à détruire notamment les forêts tropicales, qui sont effectivement des lieux on appelle ça des hotspots, des lieux chauds de la biodiversité en termes d'animaux sauvages, de végétation et de micro-organismes, parce que les micro-organismes font partie de la biodiversité, eh bien, tant qu'on continuera à détruire ces forêts tropicales, eh bien, nous ferons émerger de nouvelles maladies infectieuses qui peuvent devenir des pandémies, parce que, comme on le voit très bien dans le film ou dans le livre, le facteur numéro 1, c'est la déforestation. Le facteur numéro 2, c'est l'élevage intensif qui va permettre de créer des ponts épidémiologiques entre ces virus d'origine zoonotique animale et les humains. Et puis la globalisation qui fait que des virus prennent l'avion comme nous, quoi. Donc voilà, le cocktail, il est là et ce sont les activités anthropiques humaines qui sont à l'origine de ces émergences.
Alors, on va en parler, mais on va peut-être parler déjà de la genèse de votre film, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher Juliette Binoche.
Je n'ai pas allé la chercher, c'est elle qui est venue me chercher.
C'est elle qui est venue vous chercher, expliquez-moi.
Oui, c'est complètement l'inverse. Non, c'est un peu à hasard. Quand j'écrivais mon livre en août 2020, elle m'a appelé sur mon portable pour me dire qu'elle présidait un festival du film de l'environnement à Porquerolles et qu'elle voulait que je fasse partie du jury. Voilà comment on s'est rencontrés et du coup... Quand elle a su sur quoi je travaillais, elle m'a demandé si elle pouvait m'accompagner. Donc, c'était pas du tout prévu. Au début, j'étais même pas très chaude, faut dire la vérité, parce que elle est très prise. Et donc, voilà. Mais heureusement, c'était une année particulière, l'année où nous avons tourné 2021, où on a réussi quand même. Bon, elle n'est pas allée partout. Hein, il y a 2 pays où elle n'a pas pu aller parce que. Mais voilà. Mais après, je me suis dit que c'était intéressant parce que comme elle ne connaît rien à la science, c'est ce qu'elle m'a dit. Je connais rien à la science et je voudrais apprendre. Je trouvais que c'était intéressant justement de se dire elle va servir un peu de lien entre les scientifiques et le public.
Alors, ce parti pris est intéressant à mon sens, puisque donc, elle introduit le spectateur dans le film et elle lui fait poser les questions. Et donc, c'est une excellente porte qui est ouverte au spectateur, à mon avis. Donc, vous allez dans le monde entier. Donc, les images sont magnifiques. Oui. J'espère qu'on n'est pas en train de regarder un paradis perdu. Et vous expliquez, donc, il y a des termes qui sont... C'est-à-dire qu'on s'adresse, c'est des scientifiques qui s'adressent à nous. On voit toute une communauté de scientifiques, mais qui s'adressent en des termes extrêmement simples et compréhensibles. Par exemple, pour expliquer la pandémie, il y a par exemple l'histoire des animaux compétents. De quoi s'agit-il ?
Alors, bon, faut savoir que pour les virus qui sont potentiellement dangereux pour les humains, en général, ils sont hébergés par ce qu'on appelle des réservoirs. Les premiers réservoirs sont les rongeurs, en fait. Hein. Ensuite, ce sont les primates et les chauves-souris. Bon, quelques oiseaux peuvent l'être également, mais voilà. Donc, ce sont les réservoirs, ce sont des animaux qui hébergent ces virus sans... Sans tomber malade, ils n'ont absolument aucun signe clinique. C'est le cas des chauves-souris, par exemple. Hein. Mais on découvre, grâce au travail des scientifiques, les chauves-souris, par exemple, quand on brûle la forêt à Bornéo, par exemple, pour faire des palmiers à huile, eh bien, les chauves-souris sont obligées de s'enfuir, elles stressent. Et là, du coup, en stressant, elles excrètent les virus dont elles sont porteuses. D'accord. Et qui peuvent contaminer des fruits qu'il y a dans la forêt, par exemple. Et s'il y a un singe qui passe par là et qui mange des fruits, il va être contaminé par ce virus de chauve-souris. Et si, en plus, l'homme mange de singe, l'homme va être contaminé. C'est l'histoire d'Ebola, ça, en fait. Voilà. Et ensuite, ces chauves-souris, elles deviennent... Quand on les chasse de leur habitat, c'est là qu'elles deviennent un danger pour nous. Hein. Donc, voilà. Alors, les chauves-souris sont des animaux compétents, c'est-à-dire que pour certains virus, parce qu'elles les hébergent, et qu'elles peuvent transmettre ces virus dans certaines conditions. Voilà. C'est pareil pour le modèle de ça, c'est la maladie de Lyme, hein, donc sur laquelle ont travaillé deux chercheurs américains pendant 30 ans. Et donc, ils ont identifié qu'aux États-Unis, le réservoir de la bactérie qui peut infecter les tiques et ensuite les humains, c'est un petit rongeur qu'on appelle la souris à pattes blanches. Bon, en France, c'est plutôt le campagnol et le mulot, hein, mais c'est la même histoire. Donc, dans une forêt, ils ont montré que si... il y a plein d'animaux différents dans une forêt, dont les souris à pattes blanches qui portent la bactérie de Lyme, mais les autres, c'est des écureuils, des renards, des opossums, enfin, etc. Eh bien, on dilue la probabilité qu'une tique s'infecte, parce que tous ces autres animaux ne sont pas compétents pour transmettre la bactérie de Lyme. Voyez ? Donc, quand on morcelle une forêt, fragmente une forêt, ils ont très bien démontré, fragmenter une forêt, ça veut dire faire une route au milieu d'une forêt. C'est un center park, je sais pas quoi. Eh bien, la première conséquence, c'est que tous les prédateurs s'en vont, les renards s'en vont, les lynx s'en vont. Pas de chance, parce que ces animaux contrôlaient la population des rongeurs, dont celle des souris à pattes blanches, vous voyez. Et puis, on fait aussi disparaître d'autres animaux qui sont liés à des niches écologiques. Et du coup, la souris à pattes blanches prolifère. Donc, ça augmente la probabilité que les tiques s'infectent quand elles cherchent un mammifère, un animal pour faire leur repas sanguin. Voilà.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire qu'il y a une interconnexion qui est bénéfique et bienfaisante des espèces qu'on est en train de faire disparaître ?
Ouais, bien sûr, c'est toute la question des équilibres. En fait, il y a une chaîne du vivant, et contrairement à ce que les humains pourraient penser, tout le monde a son rôle dans la chaîne du vivant, y compris les prédateurs. On a besoin des prédateurs. L'exemple le plus frappant, c'est quand je suis allé tourner au Kenya, chez les Maasai. Les Maasai, c'est un peuple qui vit de l'élevage, en pleine savane, au pied du Kilimandjaro. Alors, c'est vraiment très beau, hein, là où ils vivent, vraiment. Quand tu te dis, mais moi, je suis fille de paysan, mon père était éleveur de vaches, enfin, comment ils font pour avoir des vaches au milieu des lions et des hyènes ? Ils sont les premiers à dire qu'il ne faut pas exterminer les lions, parce que si on extermine les lions, les gazelles, les antilopes vont proliférer, elles vont bouffer toute la végétation, et à la fin, ce sera un désert. C'est les lions qui permettent à ce que la savane ne se transforme pas en désert. Donc, on a besoin des lions. Alors après, évidemment, il peut y avoir un problème, un risque, qu'un lion mange une vache. Bon, il dit, c'est à nous de nous protéger. Enfin, mais il ne faut surtout pas exterminer les lions. Et nous, c'est ça qu'on fait. En Europe, on a exterminé les loups, on a du mal à réintroduire des ours, et on est en train d'exterminer les renards. Et en faisant ça, on déséquilibre toute la chaîne du vivant. Et c'est là qu'on se met en danger, vous voyez ?
Et alors là, vous parlez d'une sorte de pacte entre les espèces et que les peuples anciens, comme les Maasai, sont en train de dont nous font part les Maasai, comme s'ils avaient une science qui est très importante pour nous.
Ben, c'est ce qu'on appelle, les anthropologues appellent ça les savoirs écologiques traditionnels. Hein. Donc voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, on est dans une telle impasse, l'humanité est dans une telle impasse, à cause notamment d'un modèle économique porté par les pays occidentaux, hein, faut le dire clairement, hein, qu'on est en train de dérégler le climat, de faire disparaître la biodiversité, et en plus de créer des conditions pour l'émergence de plein de maladies infectieuses, qui peuvent être bien plus dangereuses d'ailleurs que la Covid-19. Donc si on veut sortir de cette impasse, il faut qu'on réapprenne, enfin qu'on retrouve notre juste place dans la chaîne du vivant, et pour ça, nous avons tout à apprendre des peuples premiers, qui justement ont su maintenir ce rapport d'équilibre avec leur environnement, dont ils font partie, et il ne leur viendrait jamais à l'esprit de détruire l'environnement qui est leur maison commune, voyez, ou qui est la branche sur laquelle ils sont assis. C'est ce que nous faisons, l'humanité, et en particulier les pays occidentaux.
Alors, justement, il y a une scène qui est très intéressante dans votre film au Kenya, c'est-à-dire qu'on voit des Maasai et on voit également des chercheurs, et tous font corps et collectif.
Oui, bien sûr, parce que c'est l'idée de One Health, qui est donc un nouveau paradigme, une seule santé, l'idée étant de cesser de déconnecter la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques, et la santé des humains. De se dire que si les écosystèmes vont mal, les animaux vont mal, et nous, les humains, allons mal. C'est-à-dire que tout est lié, quoi, tout est connecté. Et donc, ces scientifiques qui sont des pionniers de One Health, qu'on voit au Kenya, que j'ai accompagné, vont justement rencontrer les Maasai parce qu'ils disent que dans cette nouvelle vision globale et holistique de la santé qu'on doit développer, eh bien, on doit s'inspirer de ces peuples premiers qui ont toujours su faire, qui ont toujours su que la santé de la savane était importante pour que les animaux sauvages soient en bonne santé et que les animaux domestiques le soient et les humains. Donc voilà. Parce qu'on ne peut pas continuer à détruire les environnements comme on fait en ce moment, de manière absolument massive, ou dérégler le climat, sans qu'il y ait des impacts sur la vie, tout simplement. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, un peu partout.
Marie-Monique, nous sommes dans une sorte de train en marche. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir l'arrêter et se mettre à penser collectif avec l'ensemble du vivant?
Moi, en tout cas, ce que je dis toujours, c'est que c'est trop tard pour être pessimiste. C'est trop tard, c'est tout. On n'a pas d'autre choix que de se dire qu'on va y arriver, et il faut tout faire pour. Même si c'est pas gagné, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez des thèses qui parlent de biosécurité?
Alors là, la biosécurité, c'est encore tout un autre chapitre.
Vous voulez parler d'une tour?
Ah non, ben ça c'est encore autre chose, la tour.
Oui,
C'est pas la biosécurité. Non, on parle de la biosécurité ou de la tour, c'est pas la même chose.
On va commencer par parler de la biosécurité, on terminera par la tour.
Non, mais la biosécurité, c'est une théorie qui s'est développée aux États-Unis au moment de la guerre froide, et qui aujourd'hui met dans un même sac les dangers que peuvent provoquer le dérèglement climatique, les cyclones, le risque du bioterrorisme et les maladies infectieuses. Donc vous voyez, c'est une espèce de...
Voilà. Le magma.
Oui, vraiment. Et d'ailleurs, développé en partie par le Pentagone, enfin, etc. Donc dans cette conception, en fait, la nature, c'est un ennemi, en fait, qu'il faut absolument dominer parce que c'est de là que partent les dangers. Et donc, il faut contrôler la faune sauvage.
Histoire de peur et de domination. Alors.
Voilà, et donc du coup, on ne s'attaque pas aux causes qui contribuent à l'émergence de maladies infectieuses, la déforestation. Par exemple, pour faire du soja en Amérique du Sud, qui va nourrir les élevages intensifs européens. Voilà, ça c'est l'une des causes, par exemple, de l'émergence de maladies. On sait que le virus, par exemple, Zika, a émergé au Brésil comme ça, en déforestant en Amazonie pour mettre du soja. Qui va nourrir les élevages intensifs européens. Donc voilà. Donc on ne s'attaque pas aux causes, mais on continue de considérer que la nature, c'est une source de danger, donc il faut la dominer, enfin, etc., etc. Alors, tout ça, ça fait que on crée des laboratoires de haute sécurité, soi-disant, pour scader tous les virus potentiellement dangereux pour les humains qu'il y a dans la nature, etc. Mais toute cette vision-là est très... Enfin, voilà, c'est beaucoup d'argent pour les laboratoires, mais ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est ce que disent les scientifiques dans mon film et dans mon livre, pour protéger notre santé. La biosécurité, c'est une vision très techniciste, et puis toujours pareil, hein, de très anthropocentrée, en fait, hein, de la sécurité.
On va terminer maintenant avec cette histoire de la tour.
Mais oui, parce qu'on me dit souvent qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, évidemment, il y en a qui pensent qu'on va arriver à stopper le dérèglement climatique, par exemple, avec des mesures, avec la technologie. Vous voyez, on va, comme en ce moment on le voit, il y a des expériences dans le ciel pour balancer des produits chimiques qui vont ralentir le rayonnement du soleil, enfin, etc., etc. Et une anecdote que je trouve intéressante que m'a raconté un scientifique de l'Université Columbia aux États-Unis. Il venait d'inaugurer la chaire de l'écologie évolutive dans cette université américaine au début des années 2000. Il raconte qu'il est dans un cocktail et qu'il tombe sur des ingénieurs de la Columbia University très excités parce qu'ils sont en train de construire le prototype d'une tour aussi grande qu'un gratte-ciel avec plein de tuyaux à l'intérieur, plein de produits chimiques à l'intérieur, et le but, c'est de capter du carbone. Donc ils sont très excités, racontent, ils cherchent de l'argent pour faire plein de tours partout, et là ils les regardent, ils disent, mais c'est des arbres en fait. Et là ils comprennent pas, quoi. Comment on peut comparer un arbre à une tour sophistiquée? Ben si, un arbre un arbre c'est fait pour capter du carbone, et voilà. Sauf que c'est très intéressant parce que, vous voyez, il avait raison en fait, mais dans cette vision techniciste, les tours sont plus importantes, ont plus de valeur que des arbres, voilà.
Donc la solution est là, à nos côtés, il suffit de la voir et de l'entendre.
Oui, sauf qu'il faut faire vite, quoi.
Voilà. Il faut faire vite. Merci en tous les cas, Marie-Monique, pour tout le travail que vous faites et que vous réalisez. Cette prise de conscience, j'espère que va amener votre film. Et je vous dis à bientôt, à votre prochain film, sans doute.
Entendu, vive les microbes, c'est le prochain, voilà.
Merci encore, Marie-Monique Robin, pour cet éclairage précieux que vous nous avez apporté. Et amis auditeurs, je vous dis à bientôt, à très vite, pour une prochaine émission.